bonjour à chacun. Que Dieu vous bénisse dans cette nouvelle année 2014, où tous mes voeux vous accompagnent. Mais nous allons lire ensemble plusieurs textes bibliques ce matin. Et je commence par l'Ancien Testament, l'un de ces petits prophètes qu'on a parfois du mal à retrouver parce que on ne va pas tellement souvent lire dans cette partie de la Bible. C'est Osée, au chapitre 2. Alors, il semble que la version de la Bible que j'utilise, qui est la version seconde, ne corresponde pas tout à fait au texte que vous aurez par la projection, qui utilise une autre version, mais c'est peut-être l'occasion de se rendre compte de la richesse des traductions bibliques et de leur diversité. Osée 2:16, c'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. De là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Elle y chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon Baal. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals. On ne se souviendra même plus de leurs noms. En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai se coucher en toute sécurité. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, oracle de l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le vin nouveau et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Je répandrai pour toi de la semence dans le pays, et j'aurai compassion de l'Oruhama, ce qui veut dire en hébreu celle dont on n'avait pas miséricorde, et je dirai à l'Orami, ce qui voulait dire en hébreu aussi, tu n'es pas mon peuple. Donc, je dirai à l'Orami, tu es mon peuple. Et il dira, mon Dieu. Nous lisons ensuite dans le Nouveau Testament. Nous nous rendons dans l'épître de Paul aux Romains. En commençant par le chapitre 9. Romains 9, versets 24 à 27. C'est-à-dire à nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Comme il le dit dans Osée, et là vient une référence à une partie du passage d'Osée que nous venons de lire, celle qui n'était pas mon peuple, l'Ohami, en hébreu, je l'appellerai mon peuple, et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et nous passons ensuite au chapitre 11. De la même épître, Paul aborde la question, est-ce que Dieu a rejeté Israël? Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes, non, car moi aussi, je suis israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie s'adresse à Dieu, cette plainte contre Israël? Et nous continuons au verset 11. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Là encore, certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Et au verset 25 du même chapitre, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, les juifs qui ne connaissent pas encore Jésus, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde, eux aussi maintenant, par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et un dernier texte, dans la première épître de Pierre, en Pierre 2, versets 9 et 10. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple. À nouveau une référence à Osée, Lo Ami, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, Lo Ruhama, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. On dit souvent que la lecture biblique, c'est le meilleur moment de la prédication. Alors, on a passé le meilleur moment. Il est un peu long, mais j'espère que quand même l'Écriture vous a nourri et interpellé, ne fût-ce que déjà par la lecture qui en a été faite. Vous l'aurez remarqué, donc c'est le passage du livre d'Osée qui revient plusieurs fois dans les autres textes que nous avons lus. Alors Osée, pour le situer historiquement, il écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, à une époque où le peuple d'Israël s'est gravement laissé entraîner vers les idoles. Et comme conséquence, c'est le début de l'agonie du royaume du nord, qui avait, il y avait une division entre le nord d'Israël, 10 tribus, et le sud, des 2 tribus, Osée prêche dans le nord d'Israël. Et la menace assyrienne se précise. Et malgré cette menace, malgré ce danger, Israël ne se repentira pas. Malgré les prophètes qui annonçaient le châtiment de Dieu. Et donc, il sera emmené en captivité. Le texte compare, comme dans beaucoup d'autres endroits, l'idolâtrie d'Israël à une prostitution ou à un adultère. Et l'alliance de Dieu avec son peuple étant décrite sous la figure d'un mariage, l'adultère étant considéré en Israël comme une raison suffisante pour justifier un divorce. Alors, cet adultère spirituel qui était l'idolâtrie, vécu sans repentance et sans regret, de façon prolongée, c'était une raison largement suffisante du point de vue de Dieu pour rompre avec Israël son alliance. Et donc, la déportation du peuple, l'exil prédit par Osée, est considéré comme l'occasion où la lettre de divorce de Dieu s'est concrétisée dans l'histoire d'Israël à cause de son infidélité. Donc, on pourrait dire que la première tentative de Dieu, la première alliance de Dieu avec un groupe humain, apparemment, aboutit à un échec. Mais l'amour de Dieu qui veut et qui cherche la restauration du pécheur dans une pleine communion avec son Créateur, cet amour de Dieu ne va jamais se satisfaire d'un échec. Et ça, c'est vrai aussi dans notre vie. Parce qu'il s'agit de Dieu, toute situation d'échec apparent dans la Bible s'ouvre toujours sur un avenir. Alors j'espère que nous le savons dans notre propre expérience. N'est-ce pas souvent par l'épreuve, par les difficultés, même par nos chutes parfois, et par les conséquences qui s'en suivent, que Dieu peut commencer dans nos cœurs une vie nouvelle, une œuvre nouvelle. Non pas que Dieu aime nous voir chuter ou nous voir souffrir, mais il sait bien qu'avec cette fichue vieille nature de pécheur que nous avons encore tous, nous sommes ainsi faits que souvent nous devons être amenés à désespérer nous-mêmes. Les circonstances et de toutes nos fausses espérances pour nous ouvrir à lui, n'est-il pas vrai? L'exil en Assyrie fut cela pour Israël. Que dis-je? Il est encore cela puisque la dispersion d'Israël parmi les nations n'est pas encore terminée. Même si une partie du peuple est rentrée dans sa terre. Je crois que à travers cette dispersion, à travers les difficultés qu'Israël a rencontrées, le but de Dieu, c'est de le ramener à lui. Et oui, de lui rendre finalement sa patrie, la terre d'Israël. Alors voyons de plus près les promesses d'Osée. Parce qu'il n'y a pas que des reproches dans Osée, il y a aussi des promesses. Elles me paraissent pouvoir être résumées en 4 points. Alors, je vais reprendre le texte d'Osée, je vais arriver à 1 Pierre, comme peut-être plusieurs qui ont suivi les lectures dans leur Bible, mais je retourne dans Osée. Voilà, j'y suis. Je la conduirai au désert et je parlerai à son peuple. Alors le désert pour Israël, ça est évoqué dans leur histoire, la sortie d'Égypte, où ils avaient souffert dans l'esclavage. Je lui donnerai des vignes et la vallée d'Achor, ça rappelait Josué, l'entrée en Palestine, un épisode de la conquête d'Israël. Autrement dit, Dieu dit qu'après ce temps de désert où ils vont passer, Dieu va rendre Israël à Israël, Dieu va rendre la terre au peuple. Un nouvel exode lié avec cet événement, mais dans une relation chronologique qui reste imprécise. Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? Il y aura un retour du cœur. Pas juste un retour physique dans un pays, mais un retour du cœur. Une conversion générale du peuple tout entier. Verset 25. Il dira, mon Dieu. Israël a toujours connu un reste fidèle qui n'a pas plié les genoux devant Baal, mais cette fois ce n'est plus un petit reste, c'est l'ensemble du peuple. Il y aura une reconnaissance de Dieu, un mouvement d'amour envers Dieu. Il dira, mon mari, l'épouse divorcée va reconnaître en Dieu le mari qu'elle avait. Une nouvelle alliance, de nouvelles fiançailles qui vont aboutir à un nouveau mariage, si je peux ainsi m'exprimer, va se produire. Ça, c'était le deuxième point, donc, le premier point, le pays est rendu au peuple. Deuxième point, le peuple reconnaît à nouveau Dieu. Troisième point, les deux promesses précédentes s'accompagnent de précisions matérielles. Il y aura une harmonie de l'homme avec la création. Verset 20, je conclurai avec eux une alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles du sol. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre. Je les ferai se coucher en toute sécurité. Voilà. Harmonie, paix, avec la création, avec son environnement. Et puis, les récoltes viendront en leur temps, la guerre aura disparu, il y aura la sécurité dans le pays. Et le quatrième point, c'est l'aboutissement, le nouveau mariage, la nouvelle alliance ainsi contractée et qui sera une alliance éternelle où on ne parlera plus jamais de lettre de divorce. Alors, ce sont ces quatre points causés, promis à Israël. Alors la promesse est là. Et quand nous lisons ce texte, bien sûr, la question se pose, comme dans beaucoup de prophéties, cette promesse est-elle accomplie? Toute prophétie vraie s'accomplit. La parole de Dieu ne quitte pas la bouche du Seigneur sans produire ce qu'elle a prononcé. Quand s'est produit l'accomplissement, ou va-t-il seulement se produire encore dans l'avenir? Alors, l'accomplissement des prophéties n'est pas une question qui est toujours facile à discerner. Il y a parfois, même parmi des spécialistes évangéliques, plusieurs théories rivales. Ici, on pourrait penser que, voilà, avec le retour de l'exil, quand ils sont rentrés d'Assyrie avec Néhémie, Esdras, au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est cela. Non, impossible. Ceux qui sont rentrés n'étaient qu'une petite partie du peuple dispersé, pas tous. Et même si, oui, ils avaient tout à fait quitté l'idolâtrie, ils avaient compris la leçon, là. Mais c'est pas pour ça que leur cœur s'est mis à appartenir réellement à Dieu. La preuve, c'est que quand Jésus est venu, ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Et puis ce retour-là en Israël n'a été que provisoire, puisque nous savons par l'histoire que 40 ans après la mort de Jésus, en l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains chassaient à nouveau les Juifs de leur pays. Ah, c'est ça l'alliance éternelle? Ben, non. Et c'est pas non plus la paix et l'harmonie promises. Dans cette guerre de l'an 70, il y a eu 1 million de morts chez les Juifs, on ne sait pas combien chez les Romains. C'est d'ailleurs, ça je vous signale entre parenthèses, l'un des arguments qui font que certains juifs ne peuvent pas reconnaître en Jésus le Messie. Parce qu'ils disent, voilà, la Bible dit que quand le Messie viendra, il y aura la paix universelle et tout. Alors, c'est Jésus le Messie, et puis tout ce qui se passe comme guerre depuis, ça ne peut pas être lui. Hein. Bon, je ne dis pas qu'ils ont raison en leur argument, mais c'est quelque chose qu'il faut connaître pour se préparer à leur répondre si on rencontre un jour un juif qui nous objecte cela. Hein. Deuxième possibilité. Ah, maintenant, depuis 1948, ils sont rentrés en Israël, voilà. C'est ça l'accomplissement. Au stade actuel, je dis, ben, on est loin de compte. Est-ce qu'ils sont en sécurité dans leur pays? N'importe qui peut répondre, si vous suivez l'actualité. Hein, on parle souvent de missiles lancés par les Palestiniens, etc. Bon, hein, ils vivent dans une paix armée jusqu'aux dents, hein, pour pouvoir répondre à toute situation de conflit avec leurs voisins. Et puis ils ne sont pas tous en Israël, il y a encore des millions de juifs dans le monde. Et puis il n'y a pas de repentance non plus, en tout cas pas au sens qu'ils acceptent Jésus. Oui, il y a un nombre croissant de juifs messianiques. Ah, ça c'est encourageant. Il n'y en a jamais eu autant que de nos jours. Là, on pourrait se dire, bien, on doit être en marche. C'est peut-être plus éloigné que ça. Mais ça veut dire, bon, on n'y est pas encore. Alors ici, je vais vous donner, c'est pas un truc, Marilus, hein, c'est pas un truc pour comprendre la Bible, t'as dit qu'il n'y en avait pas, c'est vrai. Mais dans la Bible, il y a quand même des pistes qui nous sont données, dans la Bible elle-même. Hein. Et je crois que l'une de ces règles, c'est de se dire que les textes de la Bible s'éclairent mutuellement. Et en particulier, les citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament nous montrent comment les apôtres qui étaient remplis du même esprit qui avait inspiré les prophètes, comment les apôtres ont compris le sens des prophétie qu'il lisait. Et c'est pourquoi, dans la partie lecture, qui était la meilleure de toute la prédication, je vous rappelle qu'on a lu aussi des textes du Nouveau Testament. Et c'est intéressant, et parfois surprenant, pour nous, de voir comment les apôtres ont considéré que les textes devaient s'accomplir. Alors bon, il y a l'Épître aux Romains qui cite ce texte d'Osée, puis aussi l'apôtre Pierre. Et nous constatons que chez Paul, comme chez Pierre, l'accomplissement de la promesse à Israël se réalise dans la conversion des païens à la foi chrétienne. À ses lecteurs de l'Église, qui comprenaient, oui, des juifs, mais aussi davantage sans doute de gens venus du paganisme, Pierre dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, parce que les païens n'étaient pas le peuple de Dieu, ils étaient l'Ohami, pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu qui a obtenu miséricorde. Et Paul dit la même chose. Et là, je constate que le Nouveau Testament parle souvent de l'Église comme étant le nouvel Israël, le peuple de la nouvelle alliance, avec les Juifs convertis à Jésus-Christ et tous les païens qui n'étaient nulle part avant, mais qui sont maintenant englobés dans le plan de Dieu. C'est avec cela, cet ensemble, l'Église, que Dieu parle de mariage, que Dieu parle d'une nouvelle alliance, d'une relation établie pour l'éternité à cause de l'Esprit Saint que Dieu a fait habiter dans son Église pour toujours. Très bien. Maintenant, alors le problème, c'est que quand On comprend bien cela, et en général, l'Église chrétienne, dans son histoire, l'a bien compris. On en déduit parfois qu'alors Israël, plus rien à voir. Israël est rejeté. C'est même parfois le fondement d'un certain antisémitisme, comme chez certains qui se disent chrétiens. Et donc, il faut se poser la question quand même, est-ce que cela entraîne le rejet d'Israël? Est-ce que ce texte ne s'applique qu'à l'Église? Alors, la réponse à cette question, c'est à la fois oui et non. Bon, en Romains 9, on l'a lu, hein, Paul dit, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Non. Un peu plus loin, il parle de leur rejet quand même. Du rejet d'une partie de ceux qui n'ont pas accepté le Christ. Même dans Osée, on voit une partie du peuple qui n'est plus le peuple et qui le redevient en retournant en Israël. Alors, cette difficulté, il faut la résoudre de la façon suivante. Si on veut dire, oui, il y a rejet d'Israël, on peut le faire. Mais il faut ajouter aussitôt, il n'est ni total, ni définitif. Alors, il n'est pas total parce que il y a de plus en plus, il est dit, et il y a toujours eu une petite partie d'Israël qui a reconnu en Jésus son Messie. Il n'est pas définitif parce qu'un jour ce sera la totalité d'Israël qui sera dans ce cas-là. Donc il y a rejet temporaire de la majorité des Juifs endurcis. Pourquoi, dit l'apôtre, ou jusqu'où, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, on peut dire, voilà, quand on sera arrivé au bout du travail missionnaire, c'est important le travail missionnaire, que toute nation, toute tribu, toute langue puisse avoir en son sein un groupe qui confesse Jésus-Christ, que plus aucune tribu de la terre n'ignore le message de l'Évangile. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et nous sommes tous appelés à collaborer à cette tâche, ne fût-ce qu'en priant ou en donnant, si nous n'allons pas. Hein? Quand nous aurons fini cela, alors la dernière génération d'Israélites se convertira. Maintenant, les spécialistes, tout à l'heure, je dis, il y a des théories rivales parmi les biblistes, oui, d'accord, on ne comprend, on n'est pas sûr de tout, hein. La discussion, c'est pour savoir si cette conversion globale d'Israël va se produire avant le retour du Christ ou après le retour du Christ. Moi, je vous dis, je ne suis pas absolument sûr. Bon, mais je vais quand même vous dire ceci. Si c'est avant le retour du Christ, ça veut dire ceci. Ces chrétiens, ils nous ont tellement aimés, ils ont tellement prié pour nous, ils nous ont tellement accueillis, ils nous ont tellement montré l'amour de Dieu qu'on n'a pas pu résister à la grâce du Seigneur et qu'on est venu à Jésus-Christ avant qu'il ne doive revenir. Si c'est l'autre réponse, ce sera peut-être, ces chrétiens, ils nous détestaient tellement, ils nous méprisaient, ils nous ont tellement rejetés, on n'a pas pu se convertir avant que lui, Jésus, revienne. Voilà. Lequel des deux préférez-vous? Bon, hein. Ce qui va se passer en réalité, je ne sais pas, mais ce que nous devrions souhaiter, pour moi, c'est clair. Il n'est pas normal que des chrétiens soient antisémites. C'est impossible. En tout cas, c'est clair que le plan de Dieu englobe toutes les nations du monde, nous, les ex-païens, et son peuple qui va revenir à lui, le reste fidèle d'Israël. Et vous savez, c'est par la même grâce imméritée que nous serons tous intégrée dans ce cœur du Christ, que le péché sera pardonné, que l'adultère d'Israël sera oublié, et que nos péchés seront lavés. Nous savons grâce à qui ça a été possible, grâce à la croix de Jésus-Christ, où il est mort pour nos péchés, là où la justice de Dieu s'est abattue sur l'innocent, afin que la grâce de Dieu puisse nous toucher, nous les coupables. La différence entre les deux alliances, elle est là. Dieu ne rejette plus son peuple, non pas parce que son peuple serait devenu meilleur, mais parce que le sacrifice total, accomplissant l'expiation, a été accompli, et que donc Dieu peut donner son esprit à des cœurs qu'il aime, qui le suivent, et il ne le retirera pas. Et donc cette alliance dans laquelle nous sommes entrés est une alliance éternelle. Alors, frères et sœurs, aimons Israël, prions pour leur conversion, comme pour celle d'ailleurs des musulmans aussi, celle des arabes. C'est pas parce qu'on est pro-Israël, qu'on aime Israël, qu'on est anti-arabe. Bien sûr, rien de plus beau que de voir un juif devenu chrétien et un musulman converti qui se rencontrent, qui s'aiment, qui apprennent à vivre ensemble. Il n'y a rien de plus magnifique que cela. Prions pour que des choses pareilles arrivent de plus en plus, et que Dieu répande sa grâce sur ces religions, ces cultures qui, jusqu'à présent, s'opposent à son message. Nous croyons en un Dieu tout-puissant pour lequel toute chose est possible. Oh, pour nous-mêmes aussi, puisque tout est grâce. Éliminons l'orgueil. Salut est magnifique, c'est un don de Dieu. Nous ne le méritons pas. Si nous sommes gardés, c'est par la puissance de Dieu qui nous aime. Marchons humblement avec lui, en veillant sur notre conduite avec la plus grande attention et comptant sur Dieu pour nous garder contre des possibles rechutes. Que Dieu nous bénisse chacun. Amen. Thank you.